Le porte-parole du Hezbollah irakien Jafar al-Husseini, en soulignant l'existence des preuves sur la présence du régime sioniste au Kurdistan irakien, a précisé que la résistance irakienne dispose des capacités de défense aérienne dont il aura besoin pour défendre l'espace aérien irakien contre les États-Unis. Il a ajouté que le fait que l'Irak devienne le point de départ des attaques contre les pays voisins portera le conflit à un nouveau niveau. Comment peut-on décrypter cette mise en garde de la résistance irakienne? Arnaud Develay, juriste et analyste politique, nous répond.
Alors, petit rappel des faits, bon, effectivement, c'est un secret pour personne, mais le Kurdistan irakien, si on peut l'appeler comme ça, est devenu de facto une entité quasi autonome qui opère indépendamment des décisions qui sont prises par le gouvernement central à Bagdad. C'est un processus qui a commencé à l'époque déjà suite à la, j'allais dire la première guerre du Golfe, je devrais dire la deuxième, hein, puisque la première c'était le conflit avec Saddam Hussein. Donc celle de la deuxième c'était donc celle de 90-91 où il avait été établi une zone de non-survol à l'époque, ce qui avait permis essentiellement à la clique qui dirige la région d'établir et de consolider leur pouvoir politique. Hein. Ce faisant, ils ont pu ensuite financer, au travers de l'exploitation des puits de pétrole à Kirkuk, par exemple, leurs activités. Et comme ils ne s'embarrassent pas, c'est un régime plutôt mafieux. Qui dit mafieux dit que bon, tant qu'il y a de l'argent à prendre et que ça peut servir l'objectif de consolider leur contrôle sur la zone en question, ben ils sont ouverts à des tractations et à des collaborations avec tous ceux qui sont en mesure de payer et ou de produire un soutien matériel, militaire ou autre. Sans considération aucune pour les implications que ça peut ensuite avoir, puisque jusqu'à preuve du contraire, le soi-disant Kurdistan irakien fait partie de l'Irak, au sens où l'Irak est un pays qui a certaines frontières qui sont délimitées, comment dirais-je, de manière officielle, et qu'il n'a jamais été question d'un référendum portant sur une quelconque indépendance. Donc, on vit dans une espèce de tension permanente depuis une trentaine d'années entre le centre et donc Erbil, puisque Erbil est donc de facto la capitale de cette région. Hein. Le problème maintenant, c'est que la situation, cette tumeur est devenue maintenant métastasée, si je puis dire, à telle enseigne que des forces étrangères déstabilisatrices ont établi pignon sur rue et ce faisant ont transformé cette portion du territoire irakien en rampe de lancement dans le cadre d'opérations de déstabilisation, tantôt à l'encontre de la République islamique d'Iran de par sa frontière occidentale, ce qui avait d'ailleurs causé, si je puis dire, il y a quelques mois de cela, une attaque de représailles par le corps des gardiens de la Révolution contre cette base d'espionnage, hein, parce qu'en fait, les installations consulaires américaines sont utilisées comme paravent à des centres d'écoute et autres bases de drones, etc. Et tout ce qui peut s'apparenter à des mouvements sécessionnistes, des mouvements takfiristes, des mouvements mafieux de toutes sortes. C'est un peu, j'allais dire, une armée mexicaine. Hein. Tout ça, c'est coordonné, financé et déployé au travers de cette présence étrangère au cœur d'Irbil. Donc, juridiquement, si vous voulez, on est un petit peu en présence de quelque chose qui s'apparente à ce qu'on voit en Ukraine en ce moment, à savoir un gouvernement plus ou moins fantoche qui, sous couleur de légalité, prétend administrer un territoire selon les règles établies, mais qui, en fait, donne accès à ce dit territoire à des forces étrangères dont l'agenda consiste à déstabiliser tous les pays avoisinants et utiliser donc potentiellement le dit territoire comme une rampe de lancement dans ces opérations de déstabilisation, voire pire. Donc, dans la mesure où officiellement ce serait à Bagdad de s'occuper de cela, on voit que ça n'a pas été fait, visiblement. On ne va pas rentrer dans les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Ce sera l'objet d'un autre entretien. Mais toujours est-il que sur le résultat net, c'est qu'il n'y a pas eu d'action forte, si ce n'est cette décision de la Cour suprême irakienne, cette décision récente, dénonçant et exigeant que comment dirais-je, le volume de pétrole exploité dans la zone en question soit complètement révisé afin que Bagdad puisse récupérer des revenus pour financer les besoins du peuple irakien à la hauteur de ce que cette exploitation reflète. Que cette décision de justice, donc émanant d'un organe régalien du pouvoir irakien, donc du centre irakien, a été immédiatement dénoncée par le clan Barzani comme étant comment dirais-je, une décision politique qui n'avait en soi aucune légalité et qu'ils, essentiellement, ils ont dénoncé, ils ont déclaré qu'ils allaient ignorer cette décision. Donc là, on est en présence d'une manière officielle, d'un refus d'obtempérer de la part d'une partie de l'Irak en ce qui concerne les décisions qui émanent du centre. Donc là, c'est quand même très grave. Et donc, ce faisant, la résistance irakienne, qui, il faut le dire, a fait le travail par défaut de nettoyer le pays des milices takfiristes et donc du terrorisme de manière générale, et donc, ce faisant, et tout en opérant au sein des forces armées irakiennes, assurer la sécurité des citoyens, se voient maintenant amenés à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne cette situation qui semble empirer de jour en jour et qui menace l'intégrité du territoire irakien. Afin de mettre un terme à ces agissements. Voilà. C'est une façon pour les pays avoisinants de donner une opportunité à une émanation de l'État irakien central. N'oublions pas que la résistance irakienne fonctionne, je le précise encore une fois, dans le cadre d'un format où les forces armées irakiennes conditionnent, si je puis dire, la légalité de leur intervention. Donc ce n'est pas juste, ce ne sont pas des mesures unilatérales et complètement séparées, et sans coordination aucune avec le gouvernement. Et que donc dans ce contexte, on peut s'attendre à ce que, et c'est parfaitement justifié en droit, que la résistance irakienne prenne les mesures nécessaires pour prévenir toute action déstabilisatrice qui nuirait non seulement aux intérêts irakiens dans le sens où il menacerait l'unité territoriale et politique de l'Irak, mais aussi parce qu'il pourrait, si ces actions n'étaient pas menées de manière décisive et ferme, donner un prétexte juridique à des pays avoisinants pour que ces pays prennent eux-mêmes les mesures nécessaires dans le sens où l'État irakien serait soit pas disposé ou incapable de faire ce qui doit être fait au sein de leur propre territoire. Voilà. Donc, juridiquement, c'est tout à fait fondé. Et à la lumière des événements récents, on peut penser qu'effectivement, les choses vont être prises maintenant autrement plus au sérieux. Et que cette espèce de statut un peu hybride, mais absolument infondé en droit irakien, mais aussi en droit international, et source de déstabilisation, va être certainement pris à bras le corps, d'une manière où on ne l'a pas encore vu jusqu'à présent.